Alors ça, c'est un disque aussi qui est important, qui est un disque de Martha et les Vandellas, qui est un groupe de la maison Motown, le label Motown. Et quand je suis arrivé à Paris, mes tantes avaient donc cet endroit qui se trouvait Place Blanche avec un jukebox. Et donc je récupérais tous ces petits 45 tours de face. Et donc je dansais, et j'adorais tous ces titres-là. Alors là, Martha et les Vandellas, c'est un groupe que j'adore particulièrement. J'aimais beaucoup tous les groupes de Detroit, hein, les Supremes, mais aussi Marvin Gaye, Smokey Robinson, etc. Mais je trouve que cet album est incroyable. Tout est génial. Et il y a ce titre qui s'appelle Nowhere to Run, qui est assez extraordinaire.
Ça, ça a pas pris une ride en fait. C'est dingue, hein? Le swing.
Ah, mais c'est tout, la voix, les arrangements, l'enregistrement, tout est exceptionnel, quoi, vraiment. Et tout le label, enfin tous les disques de ce label, tous les artistes de ce label sont exceptionnels, vraiment. C'est bon, c'est de la pop soul, hein. C'est vraiment le côté pop de la soul, mais c'est tellement bien arrangé, écrit. Ça s'appelle la perfection pour moi. Un peu pour le plaisir.
On voit que ça vous fait de la peine, vous avez de la peine à lever l'aiguille. Non, mais je comprends. Hein.
C'est dur d'interrompre ça, quoi.
Le fait qu'on lui consacre beaucoup de temps à la radio, là, en ce moment, c'est un peu hors de lui, c'est-à-dire que c'est pas lui. J'imagine même que s'il a la gentillesse d'écouter tout ce qu'on va dire de lui, là, à l'occasion de ses émissions radiophoniques, peut-être qu'il s'y reconnaîtra pas ou ça le fera sourire. J'espère. Parce que. On n'épuise pas ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il chante.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio. Et en fait, j'aime bien les choses en live et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton... Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
Dao ici, Dao ailleurs. Oran, Rennes, Paris, Londres, Lisbonne, New York, Café Reggio, on suppose. 6 décembre 91, parution de Paris ailleurs, un album truffé de tubes. Des attractions désastres, les voyages immobiles, comme un igloo et un homme à la mer. Un succès colossal. Dao est désormais une pop star. Avant de parler célébrité, retour avec une archive de 84.
Aujourd'hui, New York ailleurs.
L'invité de cette émission, c'est Étienne Dao. Étienne Dao, on en parle. On parle tellement que vraiment, il fallait faire venir. Salut Étienne.
Salut Jean-Loup.
Ça va?
Ça va bien.
Bon, alors on parle de toi, phénomène...
Un bâton rompu.
Oui, mais vraiment dans toute la presse. Alors, peut-être serait-il bien, en tout cas intéressant pour tout le monde, de nous rappeler un petit peu ce que tu as fait. Ce que tu as fait, ne serait-ce que pour savoir...
J'ai fait un album en 82 avec les musiciens de Marquis de Sade, parce que je suis de Rennes. Et donc je faisais partie de cette scène rennaise, et on a fait ce premier album produit par Jacques Nou. Ce disque est sorti le 14 janvier 1982, si je ne m'abuse. Et donc ensuite j'ai fait un maxi 45 tours le 14 janvier 83, c'est vrai, et qui s'appelait Le Grand Sommeil, et qui a été le début
d'une
carrière absolument extraordinaire.
Ouais. Mais t'es content d'être là?
Mais bien sûr, j'en ai pas l'air.
Bon Étienne, on va se faire un plaisir. On va l'écouter, Le Grand Sommeil.
Ah oui.
On y va, c'est parti.
Je ne peux plus me réveiller, rien à faire.
Dao, fan de pop.
Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. En cours de part, le sommeil est prisonnier de mon lit. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. m'a mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Lorsque tu disais tout bas que tu n'aimais que moi.
Vraie intervention et vraiment où je suis très présent, c'est une chanson qui s'appelle Le Grand Sommeil.
Arnold Turboust, musicien.
D'ailleurs, si on écoute la différence de production entre le premier album qui est très guitare, en fait, c'est un peu c'est la rythmique de Marquis de Sade avec les guitares de Franck Darcel, tout ça, et le Grand Sommeil qui devient d'un seul coup synthétique. Donc, on travaillait beaucoup à trois, c'est-à-dire en fait, il y avait Étienne évidemment. Et puis il y avait aussi Franck Darcel qui était donc c'était Marquis de Sade et moi, et chacun proposions des chansons à Étienne, et moi j'en avais proposé 3 ou 4 qu'on avait fait en démo, et c'est ce qui allait devenir après l'album La Notée. Et je ne me souviens plus pour quelle raison, mais le label a pas voulu sortir l'album. Il a dit non, d'abord on va sortir un single, je crois que c'est ça, et donc ils ont choisi Le Grand Sommeil.
Bon, Le Grand Sommeil, quand le single est sorti, ça change quoi pour vous, Arnold Turboust?
Je me souviendrai toujours, Étienne m'appelle, il me dit ouais, on a une télé, elle est super importante. C'était la première fois qu'on allait passer en télé, c'était une télé de Guy Lux. Et je me suis retrouvé, c'était la première fois que j'allais faire une télé, une télé nationale, où j'entendais Guy Lux hurler à l'autre bout du téléphone après Simone Garnier. Ça se passait à la Baule, je m'en souviendrai bien de ça.
Moi, je n'ai pas recherché la popularité. Je n'ai pas recherché la célébrité, on va dire. Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est pas du tout ça que j'ai recherché. J'aimais la musique, ça m'a semblé être de plus en plus un mode de vie qui était idéal pour moi. Ça ressemblait à la vie que j'avais envie de mener. Et puis je me suis rendu compte que c'était ma vocation, véritablement. Je n'osais pas trop me l'avouer au départ, mais ça s'est imposé comme une évidence. Mais ce qui arrive avec le succès, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas toujours et qui peut vous dépasser. Et qu'on ne sait pas toujours très très bien gérer. Ça s'apprend. donc les premiers temps ont été à la fois... j'étais dans un espèce de brouillard, et Dieu merci. Mais à la fois, la chute a été très très difficile. Parce que... parce que j'étais pas préparé à une célébrité si subite.
C'est quelqu'un pour qui le succès n'est pas central.
François Ledez, ami d'enfance d'Étienne Dao.
Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est le travail musical et la création musicale. Beaucoup plus que la célébrité, je pense que c'est l'attachement à la création qu'il préoccupe. Il a sorti d'ailleurs la fameuse phrase de Kerouac. La célébrité, c'est comme des vieux journaux qui s'envolent dans Bleecker Street à New York.
Parfois, c'est quand même assez perturbant.
Anne Clavry, ex-manager d'Étienne Dao.
Je pense surtout dans la vie privée, quand on rencontre des gens, on ne sait pas si les gens sont là pour soi ou pour sa notoriété. Ça, c'est des choses, mais ça, c'est pour tous les artistes. Hein. Alors, ils s'en accommodent plus ou moins bien, on va dire. Le fait aussi, je me souviens, quand on habitait ensemble à Montmartre, et comme il aime bien manger très sainement, il allait à l'époque chez Naturalia faire les courses, puis il aime bien faire la cuisine, il faisait très bien le pot-au-feu, je sais pas s'il le fait toujours, mais il aimait bien faire ses courses, et puis à un moment, c'est devenu compliqué de faire les courses, parce que n'importe où, les gens l'arrêtaient ou le reconnaissaient, c'est quand même assez pénible. Moi, c'est vrai que j'ai assisté à tout ça, et oui, ça fausse les choses, ça fausse la vie d'être connu, et puis voilà, il y a aussi des avantages, des gros avantages, les gens qui vous aiment, les gens qui vous facilitent les choses, la vie, comme ça, bon, voilà, il y a le fait parfois aussi de se retrouver un peu sur la défensive, avoir peur des regards des autres, des commentaires.
On allait par exemple à la Baule et on s'arrêtait dans un bled, lui il était avec une casquette, des lunettes, et on allait acheter... un pauvre sandwich et les gens lui sautaient dessus.
Patrick Péan, ex-manager d'Étienne Dao.
C'est compliqué à dire, de toute façon on change tous. Un chanteur c'est pareil, il devient connu, donc s'il est con il devient encore plus con, hein, et s'il est intelligent, il a du mal à rester intelligent, mais Étienne y arrive très bien.
Imaginez, vous êtes là anonyme et puis d'un seul coup il y a des personnes souvent extrêmement bienveillantes, mais qui vous sollicitent constamment, vous voyez, vous faites une queue de cinéma, je me souviens on faisait dans la queue pour aller voir un film et d'un seul coup ils l'ont reconnu, mais c'était compliqué, c'était bien compliqué. Je crois qu'il l'a vécu, enfin, il s'y est fait, enfin, il s'est adapté, il s'est dit que c'était quand même, c'était bien, parce que les personnes, généralement, étaient extrêmement bienveillantes. Je me souviens d'ailleurs aussi de sorties de concerts où il y avait des personnes qui nous attendaient, enfin, lui, moi aussi d'ailleurs, et il nous mettait directement dans la voiture et la voiture partait. Vous voyez, c'était des trucs qu'on voyait dans les films que je ne pensais pas qu'un jour connaître.
Dao, fan de pop.
Déjà vu quelque part, rafraîchissez-moi donc la mémoire. Extasé devant une toile de Vitsana, Rome, Londres ou Rennes. Vous m'appeliez Étienne, cherchant le magicien et sa dose. New York, Café Reggio, je suppose. En plein cœur de l'ivresse, au milieu du chaos, accoudé à un bar, vous m'appeliez. Vous en avez de bonnes à Lisbonne, de Salas à Paname, Amsterdam. Était-ce une quille ou un glaçon, va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon, pourvu qu'il soit le bon. Sur d'experts toboggans, vous m'avez vu glisser, vous avez glissé avec des lissons. Certes. Oh, j'aime tout. Je veux goûter à vous. Oh, j'aime tout. Je veux me donner à vous. Avant que je m'en aille, avant mes funérailles, de la vie faire rivaille. Avant que je m'en aille, les flèches de Cupid ont mal décroché, mais tels que des haches dans le dos. Et si j'ai rampé tout en bas, j'ai surfé aussi tout là-haut sur des cimes ondulantes. Hop, j'enchaîne. Du lever du soleil brûlé jusqu'au matin crème. Se frotter à tout ce qui bouge, de balanceuse en bouge. Non, je n'épargnerai ni moi ni personne. La fièvre n'est pas un nom mais un dû, mais provoque cette foutue vie en de certains hyper hostiles. Mais moi j'avoue que ça me tente. Mais je n'ai pas le rouge au front, et je ne suis pas sur le flanc, et je ne suis pas si mauvais.
passé maudit.
Les 20 ans sans te voir, je m'allonge la brèche.
Du lever du soleil briller jusqu'au matin grège.
Avant que je m'en aille, jouer à qui perd gagne. Et de la vie faire les bails. Avant que je m'en aille, mais ma ligne de fuite s'est brisée pour me mettre à la colle tes 22 étés. J'abandonne aujourd'hui mes attractions des astres. Et tu viens avec moi faire la vie.
La cartographie de Dao, les villes qu'il chérit, des attractions désastres, la chanson en ouverture de Paris ailleurs, un album né à Lisbonne et enregistré à New York. Dao nous reçoit chez lui, dans sa maison de Montmartre.
Je suis parti à Lisbonne avec quelqu'un qui allait devenir mon manager, qui s'appelle Patrick Péan. Lui, c'était quelqu'un qui était vraiment super. Il habitait ici, en fait, c'est un ami d'enfance, je le connais depuis que j'ai 14 ans. Et dans cette maison habitait Anne Clavry, qui était une amie de très longue date, de Rennes. Et donc tous les deux habitaient ici en bas. Lui, c'est quelqu'un qui est sur la légèreté. Il m'a dit, écoute, tu bosses trop, ça suffit. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Cette télé, qu'est-ce qu'on a à foutre? Cette interview, mais qu'est-ce qu'on a à battre? Parce que moi, j'ai tendance à trouver que tout est grave. Et lui, il a vraiment la facilité de tout transformer et de se foutre de tout et de tout le monde. Ce qui faisait une bonne balance, en fait. Il m'aidait vraiment à relativiser un peu les choses. Moi, je me mets en colère, je sais tout de suite quand les choses vont pas, ça m'affecte. Si une pochette va pas, ça m'affecte. Si un mix est pas bien, ça m'affecte. Enfin, tout prend trop d'importance. Et lui, alors vraiment, il relativise d'une manière incroyable. Et il me dit, tiens, on va à Lisbonne, on va se marrer là-bas, j'ai un pote, tout ça, qui peut nous recevoir. Et en fait, on est parti à Lisbonne pendant 4 jours, et j'ai fait une rencontre là-bas, et j'y ai passé un an.
Cet album a été écrit à Lisbonne,
oui,
dans ce contexte-là.
Et dans l'ordre. Et dans l'ordre de l'histoire. Et d'ailleurs, le dernier mot, c'est fin. Le dernier mot, j'étais content, j'étais assez fier que dans la dernière chanson de l'album, je puisse dire fin, quoi.
Mais pourquoi vous avez envie de l'écrire dans l'ordre?
Ça s'est imposé comme ça. Je suivais l'évolution de cette affaire. J'écrivais.
C'est un album concept.
Benoît Cachin, journaliste.
Puisqu'il raconte sa vie la nuit, ses amours déçus, ses amours passionnés, qui se clôt même avec ce fameux Paris ailleurs où il s'en va. C'est toujours un album de la fuite. Il est entre New York, Lisbonne, Paris. Là, c'est vraiment le Étienne voyageur qui va dans le monde entier.
Qu'est-ce que ça a apporté, cette production new-yorkaise?
Mais beaucoup. Déjà, tout ce qui est côté gospel, tous les chœurs, c'est très production américaine.
Patrick Péan, ex-manager d'Étienne Dao.
Donc je pense qu'il y avait une vraie couleur. Et puis, au début, Étienne devait travailler avec une équipe...
On pouvait balancer des chœurs un peu rhythm and blues, avec des stops, un truc un peu motard.
En fait, on a failli plier bagages pour revenir parce que l'équipe de base a explosé en vol. Et puis voilà, mais on l'a fait à New York. Et je trouve que ça s'entend très sérieusement, ne serait-ce que, comme je vous le dis, par ces chœurs omniprésents dans Paris ailleurs, qui est quand même l'album très harmonique.
Alors Étienne, en fait, il voulait travailler avec Dale Rogers, déjà à cette époque-là.
Edith Fambuena, coproductrice de l'album Paris ailleurs.
Donc il partit pour voir si ça l'intéressait. Puis en fait, là, il ne pouvait pas, apparemment. Et donc, Étienne, il adore Bowie, donc il avait envie d'avoir Carlos Alomar. Et c'est ce qui est arrivé.
Carlos Alomar, qui était le bras droit de Bowie. Et puis, je crois qu'il n'a pas compris où je voulais aller. Mais probablement parce que là, par contre, on avait des maquettes tellement chiadées, tellement abouties, qu'il fallait vraiment reproduire le disque. Et donc, il avait envie de nous amener dans un endroit qui n'était pas le bon lieu pour ce disque.
Et là, il y a un petit souci, c'est-à-dire que on rentre à l'hôtel et puis Étienne qui me dit je le sens pas, quoi. Je le sens pas. Je lui dis, bah écoute, on rentre à Paris et puis on travaille. Il me dit, j'ai pas envie que tu me dises ça. Ah bon? Dis-moi ce que tu... Vas-y, dis-moi. Et là, on était en train de prendre un petit déj dans un diner, je m'en souviendrai toute ma vie, ça. Je l'ai en face de moi. Et je lui dis, d'accord, je vais te dire ce que j'ai envie de te dire. Ah ben, on est à New York, tout est possible. On convoque plein de gens, on appelle ça, 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 on est à New York. Donc, allez, on y va. Il me dit, voilà ce que j'avais envie d'entendre. Et c'est ce qu'on a fait.
Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans la première équipe?
Bah, quand un musicien est plus artiste que artiste, l'expliquer, oui, mon gars, toi, tes chansons, je vais en faire ça, et puis c'est pas ton goût qui m'intéresse, mais c'est le mien. Alors là, non, ça se peut pas. Et donc, c'est vrai que Carlos Salomar, le monde entier le connaît, en ayant travaillé avec Bowie. Etienne Dao, personne ne le connaît à New York, donc forcément, il se prend dans la gueule quand même un truc où c'est insultant. On fait une chanson, il fait un album, il invite les gens à jouer et voilà, les produire avec ces gens-là. Et là, d'un coup, on lui dit, mon petit gars, tiens ta chanson, on va en faire un petit pont. Voilà, c'était pas du tout lui, Etienne. Donc cette démarche égotique qui consiste à imposer des choses et pas écouter l'artiste parce que voilà, ça se passe pas. Voilà, ça fait partie des choses aussi qui m'a appris. Si tu sais, il vaut mieux toi qui sais que vin qui cherche. Non, tu te laisses pas faire. Parce qu'en fait, quand on fait des choses comme ça, c'est pas. On s'en fout complètement de savoir où on va. C'est le voyage qui est intéressant, parce qu'on atterrit toujours quelque part. C'est le voyage qui est intéressant. Il est initiatique et il est artistique. Donc à ce moment-là, oui, ça devient très intéressant. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois les choses. Mais il y a des gens, ouais, ils vont d'un point A à un point B, car le Salon Mars, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'ils étaient pas là pour. Ils étaient là pour autre chose, quoi.
Donc ça a été un abandon avec lui. Quand on passe à côté de quelqu'un comme ça, on se dit merde, c'est dommage. Enfin, on aurait pu faire quelque chose ensemble. Il y a eu un petit regret qui a pas duré très longtemps.
Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec Étienne en train de auditionner des basses batteries, plein de couples de rythmiques. Avec toujours la même chanson, voilà, on balançait le truc. Et le matin, en fait, quand Carlos Salomar a su qu'il y avait un petit souci, on arrive donc dans le studio de répétition et on voit le gars qui était là, qui avait mis des flyers dans tous les sens pour barricader. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Carlos Salomar qui vient là, il veut casser la gueule à Étienne. Non, mais c'est pas possible. Si. Bah, il est portoricain, hein, il était un peu sanguin, le gars. Donc, ouais, il n'avait pas supporté qu'il soit évincé de cette façon-là.
Dao.
C'était bien là le fameux paradis. Y mettre un pied marin et se sentir saisi par ton regard chaud. Ton regard chaud. Oh, 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 alors que l'on se voudrait fort et fier, fondre comme les glaçons au fond de nos verres, boire la nuit entière pour ne plus se taire, pour devenir un autre. Devenir un autre. Des déserts blancs, je pense à toi la moitié du temps, à ton regard clair. Ton regard clair. Oh, 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 aveugle et plein de toi vers la lumière. Quand le soleil incendie la mer,
avec les yeux. Je n'ai aimé que ton mystère.
Et je me suis dit, mais cette petite jeune femme qui je fais des maquettes là depuis 6 mois, qui m'aide à faire les maquettes, à qui j'ai demandé de venir à New York et tout ça, mais pourquoi on le ferait pas ensemble du coup? Parce que moi j'avais commencé à produire entre temps, j'avais fait mon label, j'avais commencé à faire des productions. Donc je me suis dit, mais voilà, je vais le produire avec Edith.
Donc tu vas réaliser l'album avec moi. C'est quoi exactement cette phrase? Ça veut dire quoi? Et là j'ai compris ce que c'était réalisé en fait. C'est à ce moment-là que c'est ma première réalisation. Et là je commence à comprendre et là je commence vraiment à me dire oh là là, parce que je suis jeune, hein, j'ai 23, 24. Je me dis oh là là, c'est ça que je veux faire, ça m'intéresse ça. Parler aux musiciens, chercher les trucs avec les techniciens et tout ça, ça vraiment ça m'intéresse.
I would like to try something with the bass drum because the pattern is
it's very
dry.
Four on the floor.
Yeah. Tu vois ce que je veux dire, Étienne?
Non.
Et on s'est lancé deux Frenchies à New York comme ça, on se prend des trucs dans la tronche. Des fois c'est pas évident, mais c'était très fort. C'était très fort de faire ce disque. Et puis c'était un moment important. Moi j'étais. Je vivais une histoire d'amour complètement délirante et déchirante et passionnée. Et évidemment, debout, opposée de la terre. Donc c'était compliqué. Mais c'était un album très intense. Edith aussi, elle était dans une histoire d'amour. On était tous les deux déchirés dans des histoires d'amour à New York. Ça a beaucoup nourri l'album aussi, hein. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'intensité et de fébrilité. C'est un disque très 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 ça rougeoie quoi. c'est un disque ça crépite vraiment.
On était là, bon, on travaillait, donc c'était dans un studio où il y en avait plusieurs, et donc il y avait des gens qui venaient chanter. Mais une nuit, on est dans le studio, et puis je vais prendre un café, et puis j'entends chanter très particulier, une espèce de truc. Et je vais le voir, et je dis viens voir. Et on écoute. Et là, il y avait son manager, Patrick Perrin, qui était là, et puis on lui dit, écoute, il faudrait peut-être... ce serait pas mal, quoi. Et ça, en fait, c'était trois filles gospel qui chantaient du gospel, qui étaient là pour une pub. Et du coup, Patrick les a... Voilà, numéro de téléphone, machin, tout ça. Et puis, elles sont venues une fois qu'on avait pratiquement tout prêt pour qu'elles viennent chanter. Donc, elles sont venues, elles habitaient Washington. Et elles sont venues à quatre. Et ça a été assez particulier quand même la séance parce que ça envoyait vraiment du pâté quoi, enfin, ça chante. Et il y en avait une, la plus petite, qui était un peu à côté quoi. Et à côté, vraiment c'était imperceptible quoi. Et il y a la grande qui lui met une grosse claque. Mais une claque! Et nous on est, oh là là, en plus elles étaient en train de chanter, et puis d'un coup, paf! Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'était ce genre de truc, l'autre qui pleure. Nous, on était... Oh, ça va pas, non? Une claquasse qu'elle lui a mis. Elle s'en est mangée une, la pauvre.
Les maquettes étaient tellement bien préparées que lorsque on a trouvé les bons musiciens, le bon batteur...
Tommy Price. Il était tatoué, mais c'est un gentil gars. Et eux, ils avaient joué avec Dylan, ils avaient joué avec Billy Idol, ils avaient joué avec Joan Jett. En fait, on est vraiment dans les gros tatoués de l'époque. Heroinoman, par exemple, le batteur. Bah, il avait besoin d'argent, comme tous les gens qui étaient dans la dope, quoi. Et un jour, on lui demande s'il a déballé, et puis il dit « Ah non, mais je vais aller les chercher, il est jamais revenu. » Voilà. Enfin, il n'est jamais revenu de la journée, hein. Donc, ce genre de truc, c'est impensable. Enfin, pour nous, c'est impensable.
Tu es un papillon qui bouge, agitant ses ailes ocrées rouges. J'en reviens pas. Mes tempes brûlent, ma vue se trouble. Si je regarde ailleurs, tu vois rouge. Mais panique pas. Je laisse le hyper siffler sur ma tête. T'en fais pas.
C'est un disque qui tient très bien la route, qui est assez intemporel parce qu'il est complètement acoustique en fait. Et la manière dont il a été fabriqué, joué, pensé, enfin rêvé en tout cas plus que pensé. C'est vraiment un disque, c'était un disque de soul. Je voulais faire un disque de soul. Alors bon, après ça se transforme avec le style, sa patte, tout ça. Mais à la base c'était ça, j'écoutais Marvin Gaye tout le temps. Il y a beaucoup de choses de Motown et j'avais envie de quelque chose qui soit un peu comme ça, à très à l'os. Et donc je voulais aller à New York.
You don't, you brighten the vocals at the point?
A little bit, yeah.
Yeah. I think it feels better for me.
I'm going to take it a little further?
Yeah.
Okay.
Il adore la soul. Ça lui rappelle justement pas mal de choses de son enfance, pas mal de choses comme ça. Il adore ça, quoi. Et là, il s'est laissé porter par ce qu'il avait envie de faire. Il adore ça. Il adore danser, il adore son débit de voix est très particulier parce que justement, moi je l'ai compris tard ça. Parce qu'il est tellement écouté de soul, mais il se place. Pourtant, il a un débit, comment il se place? C'est particulier. Le jour où j'ai compris, j'ai dit voilà, ça c'est en fait c'est un mélange de toutes ses influences. Quoi.
Top it is. Here we go.
Et puis c'était un moment important aussi. J'étais plus le petit jeune homme pop et tout ça. Je commençais à devenir un homme. Je portais des costumes, tout ça et tout. J'étais encore un bébé, mais je croyais que j'étais un homme.
C'est les premiers textes vraiment sur lui.
Benoît Cachin, journaliste.
Je pense à Des attractions des astres, où là vraiment il se livre complètement dans cette chanson. Donc c'est des chansons qui peuvent paraître très très légères, très formaté pour les boîtes de nuit, mais en fait, et c'est la particularité d'Étienne, les textes sont très très profonds, très pointus, et il se livre énormément.
Sale blessure, et mauvais temps pour les cœurs purs, ça me torture. Ces obsessions. Je suis frappé sec et bas. Sous le choc, je pluie et je ploie. À mon insu, substitut de bois. Fondata, udata ou avec toi. À l'infini, toi.
Sale blessure et mauvais temps pour les cœurs purs. Sale torture, ses obsessions ont la peau dure. Cette fois, je suis frappé sec et bas. Sous le choc, je plie et je ploie. À mon insu, substitut de bois. Fond d'Adahu et d'Adao avec toi. La masse serrée qui me perce de haut en biais. Coup de massue, je me signe et perds le contrôle. Etc, etc. Oui, très léger et joyeux. Ouais, je me souviens très bien de cet enregistrement. Et... oui, c'est un texte qui est dur, mais ça, c'est la torture de la jalousie, en fait. Et souvent, on ressent des mauvais sentiments, on ressent des mauvaises choses qu'on ne devrait pas ressentir, et le fait de les écrire, ça les expulse, en fait, ça les évacue, vraiment, ça les anéantit. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de jaloux, sauf si on me donne des raisons d'évidence, hein. Mais je suis pas quelqu'un de jaloux, j'ai plutôt tendance à faire confiance et à ne pas me mettre dans une situation où je serais dans des cas comme ça. Mais souvent les gens essaient de vous rendre jaloux pour vous tester, pour que vous montriez à quel point vous tenez à eux.
Disque d'or, disque de platine, 600 000 exemplaires vendus, avec Paris Ailleurs, son 6e album, c'est plein feu sur Dao. Plan serré, portrait noir charbonneux, cachet de la poste britannique faisant foi.
Quelle photo,
ouais.
Quelle photo sublime, quelle séance photo aussi avec Nick Knight, qui était une séance très posée, une séance de photo à Londres, très posée comme ça, il shootait à la chambre, donc ça prenait beaucoup de temps. Et on me coupait les cheveux au fur et à mesure, donc c'est ce qui fait qu'on voit, j'ai plein de cheveux en fait sur le visage, des tout petits cheveux, quand on a un gros tirage.
Il est de face, en noir et blanc, c'est une autre coupe de cheveux aussi, c'est un regard complètement direct face à l'objectif.
Tristan Béra, commissaire d'exposition.
Puis il y a des timbres postes comme ça qui sont surcollés sur l'image.
Étienne était complètement effondré, je me rappellerai toujours, on était dans ce diner là à New York.
Patrick Péan, ex-manager d'Étienne Dao.
Oh, le mec arrive, nous montre les photos. Oh, c'était fort quand même, hein.
Cette pochette-là, pour moi, elle est...
Nathalie Noënec.
Elle est à contre-courant.
Conseillère en images.
De ce qui se fait à ce moment-là, on va dire, en France, ou dans le rock, ou dans la variété française, ou dans la pop française. Elle a une puissance...
Il est comme un boxeur qui sort du ring. Un peu le poids léger de la pop. Un boxeur poids léger un peu plus nerveux, un peu plus direct. Ça va bien avec l'époque, avec le début des années 90. Il est un peu plus à nu, un peu moins apprêté peut-être que dans les années 80. Un peu moins mis en star. Il va commencer un peu à avoir cette esthétique plus glacée, plus vidéo noire.
Parce qu'à l'époque, Étienne, c'était pas ça, quoi. C'était les gens, c'était la perruche de Pierre et Gilles. Voilà, c'était ça, vous voyez, le côté... Puis d'un coup, on a ce truc noir et blanc, là, dans cette de diner, là, je me rappelle toute ma vie. Et donc, je pense que la force de cette photo, c'était Nick Knight.
Si on connaît l'histoire de la photographie, les sublimes portraits de Richard Avedon, là, Nick Knight, pour moi, il vient capter complètement la puissance du regard d'Étienne, et ce côté très charbonneux de l'image, ce noir et blanc un peu fort, comme si on pouvait regarder les détails de sa barbe et de rentrer presque au niveau des pores de la peau. Enfin, il y a quelque chose de puissant, d'invasif, quoi. C'est très fort.
Vraiment, ça a été long, même pour nous. Se dire, ah ben, ça va être ça le visuel et tout, noir et blanc avec le... les pores de la peau qu'on voyait, tout ça, surtout en tirage pur, comme ça, c'était encore plus fort. Vraiment, c'était... ouais.
C'est une pochette qui a été considérée un peu comme dérangeante au moment où elle est sortie, dans les années 90. Et comme à chaque fois, je pense que quand on est dérangé, bah, ça fait date après. Et c'est une pochette qui fait partie des plus belles pochettes de l'histoire de la chanson française, pour moi.
C'était une magnifique séance, une magnifique pochette, détestée, bien entendu, par ma maison de disques. Qui était vraiment, mais vraiment, alors là, mais. Ils avaient commencé à se faire à l'image de la noter, et là, je la ramène Paris Ailleurs, donc là, c'était un peu trop d'un seul coup.
Avez-vous déjà vu quelque part? Rafraîchissez-moi donc la mémoire, extasié devant une toile de Vincennes à Rome, Londres, Rennes.
m'appelle Étienne, cherchant le magicien et sa douze. New York, Café Reggio, je suppose, en plein cœur de l'ivresse et au milieu du chaos. À côté d'un bar, m'appeliez Tao. Vous en avez de bonnes à Lisbonne, de Salas à Paname, Amsterdam. Était-ce une quille, un glaçon, on va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon, pourvu que ce soit le pont. Sur d'experts toboggans, m'avaient eu glissé, mais ils glissèrent avec délice. Ah ah.
Cet album va déclencher une tournée mondiale.
Benoît Cachin, journaliste.
C'est vraiment un album intermondialiste, on pourrait dire.
Et tu viens avec moi.
Alors c'est une période très compliquée pour lui, parce qu'il a énormément de succès. Paris Ailleurs est vraiment plébiscité par le public. C'est gonflé de tubes, un album gonflé de tubes. Et en même temps, il y a un effet boomerang de toutes ces années 80 où il a eu un succès de fou, vraiment qui est crescendo. Et là, il perd pied.
Ouais, non, c'était trop, c'était un disque difficile à faire, tout était trop de succès encore, enfin je pensais avoir connu le max, mais je pense que là, ce qui est arrivé, c'était énorme.
Il a plus de repères, il sait plus du tout qui il est, c'est très très compliqué pour lui à vivre, et là, il va faire une dépression assez carabinée, on pourrait dire, et il va s'enfermer. Complètement, il va s'enfermer sur lui-même.
C'était à la fois génial parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que j'avais écrit toutes les chansons de ce disque. Donc je m'étais impliqué davantage, j'avais pris du temps pour les écrire tout seul. Quasiment, elles sont, à part deux ou trois chansons, il y a des collaborations, la plupart des chansons, c'est moi qui les ai écrites, paroles et musique. Donc j'étais assez fier d'avoir un album quand même qui cartonne autant, où j'ai la signature de tous les titres. Même si j'ai été aidé par Jean-Louis et Edith, avec laquelle j'ai fait des maquettes. C'était un moment, c'était fabuleux. Et puis tout d'un coup, les choses se sont retournées. J'ai commencé à avoir du ressentiment par rapport à toute cette pression, avoir besoin de liberté, qu'on me lâche, qu'on me laisse respirer. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette tournée internationale qui a été très très longue. Et j'ai commencé à avoir des phobies dans les avions, de ne pas pouvoir prendre l'avion, d'être vraiment, d'avoir des phobies qui m'empêchaient vraiment de faire ce que je devais faire, et que le moment que j'aurais dû vivre comme quelque chose de fabuleux, comme l'ouverture sur l'étranger, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui marchent à l'étranger, cet album marchait bien ailleurs, c'était l'occasion, et j'ai vécu ça comme un chemin de croix.
Il y a une tournée internationale où on devait faire des concerts dans des pays assez lointains, plus loin que la Suisse ou la Belgique, où on allait assez régulièrement, voire le Canada.
Anne Clavry.
Et Étienne était crevé.
Ex-manager d'Étienne Daou.
Étienne était pas bien, et moi je l'ai poussé à maintenir cette tournée, en fait. Parce que justement, on avait pris un engagement, et que c'est quand même. Et que j'aurais sans doute pas dû, parce qu'il l'a mal vécu.
Tout était compliqué, j'étais épuisé. J'avais juste envie de m'enfermer chez moi, avec des livres, de parler à personne. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça a duré 6 mois de plus. Donc à la fin de ces 6 mois, je suis tombé comme par terre, quoi.
Ça va être une période qui est vraiment très paradoxale, parce que qui est une période très lumineuse artistiquement, et personnellement, une période très très noire.
Avec des choses qui s'étaient enquistées pendant tous ces mois où tout d'un coup j'ai lutté contre la complexité d'avoir lutté contre la phobie de prendre des trains, des avions, etc. Alors que je passais ma vie dans les trains et les avions. Les seuls moments où j'étais bien, c'est les moments où je montais sur scène. Alors là, je savais que j'avais 1h30 où là c'était top, mais tout le reste du temps dans la journée, vraiment c'était terrible. Et c'était très difficile pour mes musiciens et pour les gens qui étaient autour de moi parce que j'étais devenu dingue en fait. J'ai fait des trucs complètement dingue. J'étais devenu fou. Voilà.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop. Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer. Attaché de production Cécile Claire. Narration Christelle André.
Elle dévale la vallée, pleure larmes aiguisées. Dans le canyon, leur chant résonne. Elle dévaste les sentiers, vole d'oiseaux poussés.
convoque la nuit. La nuit déchirée par
épisode, nous découvrirons quelles ont été les influences musicales majeures du jeune Étienne Dao.
Deux de mes tantes avaient ouvert une brasserie en face du Moulin Rouge, ça s'appelait le French Cancan. Et donc le jukebox a continué parce que je récupérais à chaque fois tous les disques. C'était un événement pour moi de récupérer tous ces 45 tours. Pour quelqu'un comme moi qui était un dingue de musique, déjà.
Il m'a offert, et je m'en souviens encore de manière extrêmement claire, un disque qui était probablement issu d'un jukebox. Il s'agissait d'un disque de Richard Anthony.
Me dis là, vraiment je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot ou je pars au triple galop.
Bye bye.
C'était un disque qui avait une pochette papier, simplement, et rien d'autre. Et rétrospectivement, quand j'ai appris qu'il avait eu accès à ce jukebox de manière très fréquente quelques années avant, je me suis dit que c'était probablement issu de ce jukebox.
Donc là, vous aviez 12 ans.
Nous avions 12 ans.
Okay.
fiait sur les trottoirs de vos quartiers interdits. Encore, triste sans répit, nos silhouettes dans le noir, dans vos quartiers ennemis. Que vivent les fièvres de la jeunesse, rivière de nos vingt ans, qui galopent folle dans nos veines, et ce jusqu'au dernier printemps. Pourvu que jamais rien ne les freine, laveux de sueur et de sang, qui libérait, gonde et puis déchaîne, cet torrent défendu qui intoxique nos insomnies. De leur infectieuse mélancolie. De l'histoire dans vos quartiers ennemis. Que vive la fièvre de la jeunesse, rivière de nos vingt ans, qui galope folle dans nos veines, et ce jusqu'au dernier printemps. Pourvu que jamais rien ne les freine, l'aveu de sueur et de sang, qui libère les gondes et puis les chaînes, cet torrent défendu qui intoxique nos insomnies. Tête brûlante, le cœur froid, souffrirai-je un jour de moins souffrir pour toi? Que vive les fièvres de la jeunesse, rivière de nos vingt ans, qui galope folle dans nos veines, et ce jusqu'au dernier printemps. Pourvu que jamais rien ne les freine, l'aveu de sperme et de sang, qui libère les gondes et puis les chaînes, cet torrent défendu bien toxique nos insomnies.
Comme nos insomnies,
de leur infectieuse mélancolie.
Comme mélancolie.
Dao, fan de pop. Une émission en 9 épisodes proposée par les médias francophones publics. Tous les dimanches de l'été à 11h. Nouvelle diffusion le samedi à 16h.
Offre l'heure.
Merci d'écouter la première. Il est midi.